journal d'Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Quand un milliardaire libertaire s'offre l'une des plus grandes plateformes de discussion au monde, une caisse de résonance sans commune mesure, Elon Musk rachète Twitter pour un montant faramineux et l'opération suscite autant d'enthousiasme que de crainte, nous serons à Los Angeles. Il faut que ça se voie sans que cela coûte trop cher à l'État. Quelle solution nouvelle pour le pouvoir d'achat? Première équation complexe du nouveau quinquennat, Emmanuel Macron y sera très vite confronté, car sur le terrain, la colère est toujours là, les attentes nombreuses aussi, comme aux Antilles qui ont voté Marine Le Pen dimanche. Parole de Guadeloupéen dans ce journal. Les enseignements de la présidentielle, les législatives à venir, on y revient aussi avec votre invité Nicolas, 8h20.
Oui, c'est l'écologiste Yannick Jadot pour sa première prise de parole après sa défaite au premier tour de l'élection présidentielle. Il est dans une bonne vingtaine de minutes à notre micro avec Léa. Vos questions, 01 45 24 7000 et l'application de France Inter.
Dans ce journal aussi, une nouvelle menace de Moscou. La troisième guerre mondiale est possible. La difficile vaccination contre le papillomavirus et comment la peinture de Picasso a changé après la naissance de sa fille. Une exposition étonnante s'ouvre à Paris.
France Inter.
En cas de doute, laissons le tweet exister. Voilà comment Elon Musk résume sa vision des réseaux sociaux. La liberté d'expression sans modération, malgré les risques. C'est donc avec cet objectif assumé que le milliardaire américain vient de racheter Twitter pour plus de 40 milliards d'euros. Le patron de Tesla et de SpaceX s'offre la plateforme aux 330 millions d'abonnés actifs, malgré l'opposition ces dernières semaines du conseil d'administration de Twitter. Et ce n'est pas qu'une grosse opération dans le monde des affaires. On parle là d'un outil d'influence ultra puissant. Bonjour Loïc Piala.
Bonjour.
Correspondant de France Inter à Los Angeles. Alors d'abord, pourquoi Musk met autant d'argent? Que cherche-t-il en achetant Twitter?
Ah, c'est vrai que même pour l'homme le plus riche du monde, la somme reste phénoménale, hein, surtout pour une entreprise dont le business model n'a généré des bénéfices qu'en 2018 et 2019. Dans un communiqué hier, Elon Musk a expliqué que Twitter avait un incroyable potentiel et qu'il espérait le débloquer. C'est quelqu'un qui a eu l'idée de PayPal, qui a rendu cool les voitures électriques, qui fabrique des fusées réutilisables. Donc peut-être qu'il voit en Twitter un horizon qui échappe au commun des mortels. C'est aussi un produit qu'il utilise beaucoup et qu'il souhaite améliorer, ben, parce qu'il en a les moyens. Il a évoqué une fonction correction pour les tweets déjà publié, par exemple, une moindre dépendance à la publicité avec une formule d'abonnement, la transparence sur les algorithmes utilisés. Musk a participé il y a moins de deux semaines à une conférence. On lui avait demandé pourquoi vouloir racheter Twitter. Écoutez. Ce n'est pas une question d'argent. Twitter est devenu de facto une place publique. Alors il est très important que les gens puissent s'y exprimer librement dans la limite de la loi. C'est important pour le fonctionnement d'une démocratie.
Mais ce rachat suscite aussi des craintes, Loïc.
Oui, forcément. Est-ce que la quasi-absence de modération sur Twitter, ce qu'a l'air de souhaiter son nouveau patron, ne risque pas de transformer la plateforme en champ de bataille? Rappelons qu'après l'élection de Donald Trump, en 2016, Twitter avait déjà été très critiqué pour ne pas avoir suffisamment agi contre la désinformation. Il y avait eu des efforts justement en matière de modération. Musk préfère par ailleurs des suspensions provisoires ou des avertissements à des bannissements permanents, mais il prévient aussi qu'on ne pourra pas appeler au meurtre sur la plateforme, par exemple, parce que cela relèverait d'un crime. En tout cas, beaucoup de conservateurs aux États-Unis ont sorti de champagne. Hein. Il considère que Twitter censure les voix de droite et voit Elon Musk comme un héros qui vient d'infliger une bonne leçon aux libéraux. Évidemment, on se pose la question d'un retour éventuel de Donald Trump, exclu de la plateforme l'an dernier. Il y a des chances pour que le nouveau Twitter le laisse revenir. L'ex-président américain a déclaré sur Fox News qu'il n'était pas intéressé, d'autant qu'il a lancé sa propre plateforme, Truth Social. Bon, on n'est pas obligé de le croire.
Merci Loïc Piala. Et après ce rachat, commentaire laconique de Joe Biden, le président américain se dit inquiet du pouvoir des réseaux sociaux sur nos vies quotidiennes, quel qu'en soit le patron.
Il est 8h05, un avertissement, Alexis, ou plutôt une menace à peine voilée.
Le risque d'une troisième guerre mondiale est réel, il ne faut pas le sous-estimer. C'est Sergueï Lavrov qui parle après deux mois de conflit en Ukraine. Pour le ministre russe des Affaires étrangères, l'OTAN mène déjà une guerre par procuration avec la Russie en livrant des armes aux Ukrainiens. Déclaration à quelques heures d'une réunion en Allemagne entre les Américains et leurs alliés, où il sera justement question de livraison d'armes. Alors faut-il craindre l'escalade ? Analyse du général Dominique Trinquant, ancien chef de mission militaire à l'ONU.
C'est explosif, mais c'est explosif depuis longtemps. Mais c'est vrai que là, on arrive à un point où, ayant fixé l'objectif et l'ayant déclaré le Donbass, la Russie doit gagner dans le Donbass. Progressivement, les alliés ont augmenté la pression pour voir jusqu'où Poutine acceptait la limite, comme le président Macron l'appelle, de la co-belligérance ou pas. On a grimpé de missiles à des véhicules blindés, à de l'artillerie. On voit que tout ceci grimpe. La déclaration de M. Lavrov rentre un petit peu dans ce cadre-là en disant « attention, on n'est pas loin de la limite ». Nous livrons des armes, il nous empêche de livrer des armes. Pour l'instant, il dit attention, ça pourrait déraper, mais voilà, on n'est pas obligé en permanence de se plier à ces injonctions.
Et Lavrov s'exprime alors que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est attendu aujourd'hui au Kremlin. L'Ukraine, où la langue russe n'est plus vraiment populaire depuis 2 mois. Pourtant, elle est la plus couramment parlée au quotidien dans le pays. Mais c'est peut-être en train de changer, car la résistance passe aussi par la réappropriation de l'ukrainien. C'est difficile, mais certains veulent s'y mettre. Faustine Calmel l'a constaté à Dnipro, 4e ville du pays, à majorité russophone.
Dans cette soirée entre amis, tout le monde parle russe et Yulia, même si elle tente de progresser en ukrainien, n'est pas prête à y renoncer.
Ma langue natale, la langue de mes ancêtres, c'est le russe. Je veux continuer à le parler, je veux que mes enfants le parlent.
Pour l'instant, cela ne lui a pas causé de problème dans cette ville à grande majorité russophone. À ses côtés, Dimitri, père russe, mère ukrainienne, il a changé sa pratique depuis le début de la guerre.
Maintenant, je communique davantage en ukrainien avec mes clients ukrainophones. Même s'ils me disent « passe au russe » parce qu'on voit que tu as du mal à communiquer en ukrainien, je leur réponds « non, j'ai besoin de m'entraîner ».
Se réapproprier sa langue par fierté nationale et comme un acte de guerre, c'est exactement ce que fait Lila.
Parler en ukrainien, c'est une toute petite partie de ce que je peux faire pour renforcer mon pays. Tôt ou tard, les gens passeront à l'Ukraine. Peut-être pas cette génération, mais celle d'après, sachant qu'il y a de plus en plus d'écoles ukrainiennes.
La ville de Dnipro a aussi décidé de changer le nom d'une trentaine de rues. Le passage Moscovite va ainsi devenir passage Azovstal.
Faustine Calmel et Jérémy Tuil, envoyés spéciaux d'Inter en Ukraine. Il faut un nouveau rapport entre les gouvernants et les citoyens. L'appel de François Bayrou ce matin dans le Figaro, au surlendemain de la réélection d'Emmanuel Macron. Pas de passage en force, demande le président du Modem, qui plaide pour l'usage du référendum en cas de blocage au cours de ce second quinquennat. Le chef de l'État réfléchit justement à son prochain gouvernement. Il faut le nommer avant le 13 mai. Mais il sera vite rattrapé aussi par l'urgence sociale. Quelles mesures nouvelles pour le pouvoir d'achat des Français ? Fabien Cazot, des décisions doivent être prises d'ici l'été.
Oui, avec en premier lieu celles qui visent à réduire la facture énergétique des ménages. Le bouclier tarifaire pour le gaz et l'électricité sera prolongé jusqu'à la fin de l'année, mais son coût devrait être revu à la hausse. Tout comme les mesures sur le carburant, la ristourne de 18 centimes du litre à la pompe, plus d'éventuels dispositifs à destination des plus gros rouleurs. Tout cela sera inclus dans un budget rectificatif qui devrait être examiné en juillet par la nouvelle Assemblée nationale élue en juin. D'autres mesures viendront compléter l'arsenal pouvoir d'achat, comme l'indexation des pensions de retraite sur l'inflation, promise dès cet été. Emmanuel Macron souhaite également avancer vite sur le triplement des primes défiscalisées en entreprise ou encore la revalorisation des fonctionnaires.
Oui, mais reste à financer tout ça, Fabien. Le cadrage budgétaire s'annonce complexe.
Oui, car c'est sur une équation à plusieurs inconnues que commence ce nouveau quinquennat. Quelles hypothèses de croissance retenir? Quel niveau de taux d'intérêt? Quelle inflation? Tout cela dépendra notamment de la durée de la guerre en Ukraine et des sanctions économiques qu'elle implique, des reconfinements liés au Covid en Chine qui grippent l'approvisionnement de nos usines en matières premières et donc l'activité. Or, c'est justement le niveau d'activité qui conditionne les rentrées fiscales et le niveau des cotisations sociales. Face aux dépenses promises pendant la campagne présidentielle, il faudra aligner des recettes sans pour autant, insistent les proches du président réélu, se lancer dans une surenchère fiscale vis-à-vis des particuliers et des entreprises.
Fabien Cazot, chef du service économie et sociale de France Inter. À droite comme à gauche, cap maintenant sur les élections législatives de juin. Chez LR, c'est l'unité, voire la survie du parti qui se joue face aux appels du pied de la Macronie. Certains sont tentés de basculer. Comité stratégique à partir de 11h ce matin. À gauche, le PS parvient finalement à s'inviter aux négociations entamées par la France insoumise. Réunion demain entre les deux partis. Et pour peaufiner sa stratégie, circonscription par circonscription, chaque camp analyse les résultats de la présidentielle et notamment ses percées inédites de l'extrême droite dans des régions qui ne lui étaient pas acquises jusque-là. L'exemple le plus frappant, c'est peut-être l'outre-mer. 70% de vote Le Pen en Guadeloupe, record national et renversement total par rapport à 2017. Alors pourquoi les Antilles ont-elles fait ce choix? Bonjour William Delesseux.
Bonjour.
Vous êtes l'envoyé spécial de France Inter à Pointe-à-Pitre. Que vous disent les Guadeloupéens?
Eh bien qu'ils ont voté sans aucun état d'âme pour la candidate du RN au second tour. Sabrine vend des gâteaux près de la place de la Victoire dans le centre-ville. Son bulletin, Marine Le Pen, aux deux tours, un rejet d'Emmanuel Macron, plus qu'un vote par conviction.
Après 5 ans, on a déjà laissé la place à un président. Il faut voir ce que les autres proposent. Les personnes qui, sous prétexte qu'ils ne veulent pas être vaccinées et qu'on les vire de leur travail après plusieurs années de travail, moi je trouve ça vraiment injuste et incompréhensible.
Cette obligation vaccinale des soignants ou des pompiers, le conflit qui a duré des mois a laissé des traces, nous explique également Franz, pour qui Marine Le Pen a su marquer les esprits guadeloupéens et donc des points.
Le Pen a un discours social. Elle a à côté de ça un discours contre l'immigration qui plaît aussi à certaines personnes ici. Et baisser la TVA sous l'essence, les gens l'entendent. Quand elle dit rendre l'argent français, les gens entendent ça. Et on l'entend aussi en Guadeloupe.
Et la grande gagnante dans les Outre-mer, c'est l'abstention. Ici, plus d'un électeur sur deux n'est pas allé voter. Ça ne nous intéresse pas, disent quelques abstentionnistes croisés à Pointe-à-Pitre, des habitants d'une ville qui demandent une meilleure qualité de vie. Ce qui frappe en arrivant, ce sont le nombre de bâtiments, de rues en ruine ou à l'abandon. Ici, un habitant sur trois vit avec moins de 1000 euros par mois. C'est deux fois plus de grande pauvreté qu'en métropole.
William Delesseux en Guadeloupe pour Inter. Beaucoup de questions et encore peu de réponses. 36 heures après la mort de deux occupants d'une voiture sur le Pont Neuf à Paris, le policier qui a tiré sur le véhicule est en garde à vue à l'IGPN depuis hier après-midi. Équipé d'un fusil d'assaut, il a visé la voiture qui fonçait vers la patrouille. Une dizaine de cartouches ont été tirées. Les fonctionnaires parlent de légitime défense. Deux enquêtes sont ouvertes. On en vient à ce vaccin méconnu et qui peine encore à convaincre, malgré son utilité, le vaccin contre le papillomavirus, cette infection sexuellement transmissible, responsable de cancer, du col de l'utérus, du vagin, du pénis. 3000 décès chaque année en France. Il existe pourtant donc cette solution dont on parle en cette semaine européenne de la vaccination. Les filles et les garçons de 11 à 19 ans peuvent se faire vacciner, mais plus d'un tiers des familles refusent, selon une enquête pour la Ligue contre le cancer. Alors qu'est-ce qui coince? Victor Dolande s'est rendu chez un pédiatre.
Seul un tiers des adolescentes sont vaccinées contre les papillomavirus en France. Quant aux garçons protégés, la proportion est presque insignifiante. Christophe Battard, pédiatre à Vincennes, prend donc le temps de bien expliquer aux parents l'intérêt de cette vaccination, comme avec cette mère de deux filles.
Je ne sais pas à quel âge, du coup, il faut faire ce vaccin-là.
La proposition, c'est de la faire à 11 ans.
Du coup, c'est en une seule fois ou après, il y a des rappels?
En France, on a la possibilité de faire deux doses qui protègent encore mieux contre les cancers du col de l'utérus chez la jeune fille.
Je suivrai les conseils de mon pédiatre. Rendez-vous sera pris.
Pour Marine, maman de deux filles, dont une en âge d'être vaccinée, c'est loin d'être gagné.
Je connais des personnes qui ont fait ce vaccin-là et qui ont eu des effets secondaires. En effet, quand on entend ça, après, on reste bloqué sur ça.
En règle générale, c'est pas suivent ses recommandations, mais le docteur Battard doit aussi lutter contre les rumeurs qui entourent ce vaccin.
C'est une vaccination qui a eu probablement à la base beaucoup de polémiques, mais en fait ça a fait pchit parce que les études ont toutes montré que c'était un vaccin qui était très protecteur, sans effet indésirable particulier. Mais comme à chaque fois que c'est un vaccin, en France c'est souvent un petit souci. Donc il faut passer son temps à expliquer et rassurer.
Il lui arrive aussi de rappeler ce chiffre, 80% des hommes et des femmes seront exposés au cours de leur vie à un papillomavirus qui reste l'infection sexuellement transmissible la plus fréquente dans le monde.
Après Shanghai, Pékin est à son tour menacé d'être confiné. Une centaine de cas de Covid recensés ces derniers jours dans la capitale chinoise, ce qui suffit aux autorités pour parler de flambée épidémique. La campagne de dépistage, qui ne devait concerner qu'un seul quartier, est finalement sans attendre élargie à la quasi-totalité des 22 millions d'habitants de Pékin.
Il est 8h15, l'arrivée d'un enfant, Alexis, ça change la vie.
Oui, l'adage est bien connu et c'est apparemment ce qu'a aussi vécu Picasso, comme en témoigne la nouvelle exposition proposée par le musée éponyme à Paris. Exposition Maya Ruiz Picasso, du nom de la première fille du peintre, née en 1935. Toiles, dessins, archives, on voit combien la naissance de Maya a bousculé le maître du cubisme, Isabelle Pasquier.
De la joie et de l'inquiétude, c'est ce qui transpire des portraits de Maya par Picasso. Des élans de bonheur avec Maya aux cheveux verts, qui tient sa poupée et son bateau. Mais un an plus tard, la petite fille a le visage gris et complètement déformé. La guerre approche et dans la vie sentimentale de Picasso, c'est le chaos total. Diana Wiedmeyer-Picasso, la fille de Maya, est très émue devant les portraits de sa mère.
Quand il rencontre Marie-Thérèse, il est marié avec Olga Koklova, puis il décide à la naissance de Maya de se séparer. Donc effectivement, Maya naît dans un contexte familial assez dramatique qui explique peut-être en partie la raison qu'il cesse de peindre pendant 9 mois et se consacre à l'écriture. Entre 1938 et 1939, il a réalisé 14 portraits peints, 70 portraits dessinés. On voit qu'il sonde l'âme d'un enfant. Maya aussi est peut-être une sorte de témoin d'un monde qui est en train de connaître des perturbations. On est à l'aube de la Seconde Guerre mondiale et je pense que c'est à travers son regard qu'il a aimé explorer ce qui le préoccupe.
Ce qui préoccupe aussi Picasso, c'est que Maya naît alors qu'il n'est pas encore divorcé d'Olga et qu'à peine un an après la naissance de sa fille, il a déjà rencontré sa prochaine muse, Dora Maar.
Maya Ruiz Picasso, fille de Pablo, c'est à voir jusqu'au 31 décembre au musée Picasso, donc à Paris. Et puis 2 ans après l'avoir quitté, Toulouse retrouve la Ligue 1 de foot. Le TFC est assuré ce matin de sa remontée dans l'élite après sa victoire 2-0 hier soir en Ligue 2 face à Niort.
Merci Alexis Morel. La météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Depuis 30 ans, les experts Euromaster sont au service de votre mobilité et de votre sécurité.
Et encore des brouillards ce matin, Marie-Pierre.
Eh oui, Nicolas, l'humidité d'hier donne pas mal de nuages bas ce matin, des grisailles en Normandie, au bassin parisien jusqu'au nord-est. Ces nappes de brouillard sont nombreuses également de la Vendée, au Poitou, au Berry, à l'Auvergne-Rhône-Alpes. Ailleurs, le soleil est au rendez-vous, mais sur le nord-est, le ciel est encore chargé car la goutte froide s'évacue par la Belgique et l'Allemagne, laissant derrière elle pas mal d'averses encore. Sur les autres régions, bien le ciel va alterner entre éclaircies et cumulus et près de la Manche, le vent de nord-est se lève. On a des petites gelées vers la Lorraine ou le Cantal. Il fait 1 en Lozère, 2 à Beauvais, 4 à Angoulême, 8 à Paris et 13 à Menton.
Et c'est beaucoup moins orageux cet après-midi.
Oui, le ciel menaçant avec quelques orages va se limiter à l'Alsace et à la Lorraine et quelques averses arroseront aussi encore le nord des Alpes et les Pyrénées. Le ciel sera encore nuageux du Massif central au bassin parisien aux Alpes et une averse sera possible donc sur les Pyrénées. Ailleurs, le soleil sera généreux avec une bonne petite bise près de la Manche qui empêchera la remontada des températures. Pas plus de 13 sur le Cotentin, 15 à Dieppe et à Lille, 17 à Besançon et à Antibes. Vous aurez 18 à Paris comme à Saint-Enimie en Lozère. Vous aurez 20 à Nantes comme à Montpellier. Ça va monter à 22 à Marseille et 23 à Biarritz et Toulouse et même 24 à Nîmes.
Merci Marie-Pierre. France Inter, 8h18.